I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand on parlait du slip chauffant et des gens qui utilisaient un slip chauffant, moi je voyais ça comme un truc complètement fou, bizarroïde. Et en fait, à force de rencontrer des gens qui utilisent ça, à la fin ça te paraît complètement commun. Donc t'as pas du tout la même vision à la fin. Et nous gageons que il va se passer à peu près le même phénomène avec l'ensemble de la société française quand elle va découvrir dans la presse, à la télé, etc., parmi ses proches, des gens qui se contraceptent avec des moyens finalement assez simples.
Moi, je me suis mis à une méthode contraceptive et la bonne illustration de ce que dit Stéphane, c'est que depuis, j'ai des potes qui s'y sont mis aussi. Peut-être parce qu'on en a parlé ensemble et qu'ils se sont dit « bon, bah voilà, je connais quelqu'un qui le fait, c'est faisable et du coup, je peux le faire aussi. »
Exécuté par qui ? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mec. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Guillaume et Stéphane. Salut à tous les deux.
Salut. Salut.
Comment ça ?
Salut.
Ça commence très bien. Merci beaucoup de venir. Ça me fait plaisir de vous avoir. Vous êtes les. Alors, c'est pas votre métier, mais vous êtes les auteurs de cette BD qui est à mi-chemin entre un BD et un bouquin d'ailleurs, hein, un livre plus traditionnel qui s'appelle Les Contracepteurs.
Les contraceptés.
Les contraceptés.
Ouais. Les contracepteurs sera le volume 2.
Ça commence
ouais.
Super.
On va prendre le ciseau et la hache. On va passer à la phase 2 de notre projet pour mettre fin au patriarcat. Il y a la méthode douce dans le volume 1 et la méthode dure dans le volume 2.
Sauf si le livre 1 se vend assez et les gens s'y mettent tous. Bah voilà. Il n'y aura pas besoin du 2.
Vous n'en avez pas besoin.
Non, dans ce cas-là, on reste dans le cadre de la social-démocratie pour notre projet. Sinon, c'est la dictature, les contracepteurs, j'adore.
On est au courant, putain, mais je suis désolé.
Non, c'est
ça parfait. Commence très, très bien.
Ça va très bien, Guillaume.
Pourquoi ça ?
Il me trouve un tempérament un peu dictatorial.
Lui, c'est pourquoi.
Ok. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ?
On était tous les deux journalistes à l'AFP pendant jusqu'en 2015-16, c'est ça. Et puis Stéphane est parti, mais on a eu le temps de devenir potes avant et de faire passer pas mal de temps ensemble, notamment au week-end, en famille, entre amis, etc. Et ça s'est fait comme ça.
Ok, d'accord.
Ouais, y a pas beaucoup de mecs cool à l'AFP et Guillaume en fait partie, donc forcément ça s'est fait naturellement.
Je suis obligé de démentir.
Ah oui, t'as pas vraiment le choix vis-à-vis des autres collègues. Donc d'où vous vient cette idée de projet ? Est-ce que ça se passe exactement comme vous le racontez dans le livre, c'est-à-dire enfin vraiment le bouquin est en gros le récit de votre enquête finalement, donc ça marche plutôt pas mal. Est-ce que ça se passe exactement comme vous le racontez dans le bouquin?
Ça se passe à la fois c'est à la fois très proche et il y a des petites différences.
Okay.
À la base, je m'intéresse au sujet parce que on va avoir un enfant avec ma copine et on se dit qu'est-ce qui va se passer après. Donc moi je commence à regarder. Enfin, on se dit qu'est-ce que tu vas prendre, et puis je regarde quand même et puis je me dis je me suis jamais posé la question de ce qu'il existait pour moi. Et je commence à regarder, et puis lors d'un de ces innombrables week-ends dans la maison de campagne de Stéphane, on se dit, on en parle, on en rigole, et puis quelques temps après, Stéphane m'en reparle, à moi, Il m'écrit un mail pour me dire que le projet sur lequel j'ai envie de me lancer, ça le botte.
Okay.
Et donc voilà, ça diffère un peu de la BD. Mais en fait, très vite, on en parle à tous nos potes lors d'un de ces week-ends, et notamment à toutes nos copines. Et les réactions qu'elles ont et le fait qu'elles nous acculent un peu devant nos contradictions de mecs qui se prétendent féministes, elles sont bien réelles et voilà, et elles viennent nous dire mais ok c'est super de vouloir parler de contraception masculine dans un bouquin, mais en fait qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu vas faire quelque chose toi, et là on est un peu en difficulté, et ça c'est le chapitre 1.
Et c'est à peu près dans la même période de temps qu'on fait ses premières recherches d'archives superficielles dans la presse, où on se rend compte que des médias de masse annoncent la pilule masculine pour demain depuis littéralement des décennies. Et donc ce dialogue entre nos potes meufs, nos compagnes, et puis cette découverte que ça fait 1000 ans qu'on nous annonce une contraception qui n'arrive pas, nous donne envie d'investiguer un peu plus, quoi.
Et il faut se dire que ce début d'enquête, c'est il y a 3 ans, donc à la rentrée 2018, et puis on se met dessus vraiment ensemble début 2019. Donc là, on est en plein dans MeToo, ouais. Qui est un ébranlement général et un ébranlement pour nous, et qui vraiment donne de l'envie de se poser plein de questions sur plein de choses, et notamment sur ce sujet-là, qui assez vite nous paraît être... un impensé, un tabou, l'éléphant dans la pièce, le truc sur lequel on s'est jamais interrogé.
En fait, avec MeToo, il y a pas mal de murs qui tombent, notamment pour les hommes. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on voulait pas voir ou qu'on ne savait pas voir.
Ouais, j'allais vous demander comment vous l'avez vécu, vous, MeToo. Vous avez quel âge? 35-40 balais, c'est ça?
Moi, j'ai 43.
Moi, j'ai 34.
Ok.
Et ben moi à l'époque j'étais à BuzzFeed, donc média féministe, l'affaire Harvey Weinstein, voilà, aux États-Unis avait vraiment été suivie de près, et c'est tout de suite un mouvement qui m'a beaucoup intéressé, journalistiquement parlant, je pense que c'est quand même un des grands trucs passionnants de notre époque et sans doute de notre génération. Et en parlant avec Guillaume, en fait, ce qui m'a pété aux yeux, c'est de cette idée, la BD sous-titrée Enquête sur un dernier tabou, que la contraception, on n'en parle jamais, mais même en post-MeToo, même en essayant de mettre à plat, parce que MeToo, c'est aussi l'époque, c'est concomitant de la charge mentale, de toutes ces questions qui sont mises sur la table.
Qui arrivent après, enfin, toutes les questions de charge mentale arrivent après.
Voilà, quoi. Exactement, et la contraception est un peu au milieu de ces deux questions, à la fois du consentement sur ce qu'on fait sur un corps et sur le corps des femmes, et de la charge mentale. Et quand Guillaume m'en parle et qu'il me parle de ce projet, je me dis tout de suite, c'est fou. C'est vraiment un truc dont on parle absolument pas. Quoi.
Et c'est quand on fait nos recherches, on se rend compte. Et là, c'est le deuxième effet qui se coule, comme disent les vieux désormais, c'est que en fait, y a des gens qui y ont pensé depuis 40 ans et que nous, on ne le savait pas. Parce qu'on s'était pas interrogé, mais aussi parce qu'on nous l'avait pas dit, qu'il existait des méthodes qui avaient été développées, plus ou moins efficaces, plus ou moins utilisables, mais en tout cas qu'il y avait des mecs qui depuis 40 ans s'étaient posé la question et avaient fait ces recherches complètement punk à la fin des années 70, au début des années 80, dans une espèce d'immense indifférence générale, indifférence des autres mecs, indifférence relative de la presse, parce que la presse en a parlé comme elle est capable de parler, de faire un événement sur un truc et de s'en détourner le lendemain, indifférence des pouvoirs publics et bonne indifférence aussi des labos pharmaceutiques. Ça saute aux yeux vraiment dès les premières recherches.
Il y a un côté aussi où ça vient de la communauté un peu hippie, post-68ard, un peu...
Ouais, exactement. Et puis le premier type qu'on va voir pour essayer d'avoir un éclairage sur ce qui s'est passé, etc., essayer de comprendre un tout petit peu, alors qu'on est au tout début de notre projet, c'est Pierre Collin. Et Pierre Collin est un type extrêmement attachant. Et tout de suite, il nous raconte ses groupes de parole à la fin des années 70. Donc lui vit en communauté, il partage tout, le fric, la baise, absolument tout. Il nous raconte tout ça, il nous raconte comment ces types se décident assez rapidement, pas du jour au lendemain, mais assez rapidement, à essayer de se contracepter eux-mêmes, donc à passer des annonces dans Libé pour trouver un médecin, pour trouver des gens qui sont partants. Et puis vas-y, on s'engage là-dedans.
Putain, c'est ouf,
donc
hein.
Évidemment, c'est une porte d'entrée qui donne très envie de poursuivre le sujet. Quoi.
C'est vraiment le jour où on y va. On est en plein hiver. C'est à je sais pas, aller à 45 minutes de Paris en RER. Enfin, c'est vraiment, c'est pas très loin d'ailleurs, mais c'est genre on fait une petite expédition tous les deux pour y aller. Il y a de la neige, etc. Voilà. Et on arrive chez ce mec qui est ultra bienveillant, Pierre Collin. Et il y a un peu un monde qui s'ouvre devant nous. Une fenêtre sur le passé, en même temps une fenêtre sur l'actualité, parce qu'il nous parle de plein de choses qui se font en 2018-2019 pour que ça bouge encore. Et là, on se dit, si jamais on avait encore un doute, on se dit, bah là, il y a un sujet génial. Et le sujet, il est à ce moment-là et pendant toute la durée, il va être autant journalistique que personnel. Ça va être aussi, on va peut-être en parler plus tard, mais ça va être toute une question de développer en parallèle les deux aspects du sujet, quoi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire une BD plutôt que, je sais pas, un article, un documentaire vidéo
Bah, au début, on est parti sur un essai. Comme on est vraiment deux enfants de la presse écrite, c'était notre moyen naturel, celui qu'on maîtrise le mieux. Moi, j'avais déjà fait deux bouquins, deux essais, donc on est parti là-dessus. On a même commencé à écrire. C'était ce qu'il y avait de plus simple. Et puis, on a été voir une maison d'édition grâce à des potes de Guillaume, les éditions de la Goutte d'Or. Et eux, ils sont hyper cool. Et puis surtout, plus que cool, ils ont un œil extrêmement acéré. Et ils nous ont tout de suite dit, ça va être chiant en livre. Votre histoire est pas assez forte. Faites-le en BD, ce sera beaucoup plus impliquant. Et évidemment, c'était le super bon conseil. On continue de les remercier chaque jour. Parce que c'est ça qu'il fallait faire. Alors, entre les deux, il s'est passé... énormément de temps, parce que de passer d'un essai en écrit à une BD, ça prend du temps, mais voilà, on a bien fait de faire ça.
Et je crois qu'ils ont bien compris, en fait, notre psychologie, Geoffrey Le Guilcher et Clara Tellier et Savary, c'est que ils ont compris que, en fait, nous, on est, à la base, on est journaliste à l'AFP, enfin, Stéphane a évolué, etc. depuis, mais cette culture de l'AFP, elle est aussi assez forte sur le factuel et le fait de pas se mettre trop en avant.
Ouais.
Et ils ont compris que du coup on aurait peut-être un peu du mal à mettre du nôtre dans un essai et qu'on choisirait la forme essai pour justement pas trop parler de nous. Et en fait, je pense qu'ils nous ont fait une petite prise de judo en nous faisant faire une BD dans laquelle en fait on était forcé de se mettre en avant, de parler de nous.
Mmh. Ah, c'est ça qui s'est passé.
C'est ça qui s'est passé. Et du coup, on s'est retrouvé à se parler sans cesse pendant la scénarisation de la BD pour se dire, bon, bah, en fait, il faut parler de toi, il faut parler de moi. Le fil rouge de cette histoire, c'est nos parcours et l'honnêteté qu'on aura à parler de nos ressentis, de nos difficultés aussi beaucoup. C'est ça qui va nouer une confiance avec le lecteur.
Oui, parce qu'au final, ce qui est intéressant dans cette BD, c'est que vous racontez votre histoire à vous en même temps que vous racontez votre enquête, enfin que votre enquête avance, quoi. Ouais, vous êtes vous-même en train d'évoluer sur le sujet, quoi.
Absolument, et c'est vrai qu'on part de le cheminement qu'on raconte dans la BD, il est assez réaliste, hein. C'est qu'on part vraiment avec des appréhensions, des réticences, et on se dit dans quoi on est embarqué, c'est quand même un peu dingue. Et puis comme tout, enfin, un phénomène assez naturel se produit, c'est qu'on rencontre des gens qui pratiquent, on rencontre des gens qui font ça depuis 40 ans ou qui ont décidé de s'y mettre. On se rend compte que tout va bien pour eux, qu'ils sont humains, que leur démarche elle est vachement intelligente et du coup on évolue beaucoup à leur contact.
En fait, c'est comme tout, il faut bien se dire que on a une vision des choses qui évolue complètement à partir du moment où tu rencontres des gens qui l'ont fait. Et donc, quand on s'est lancé là-dedans, quand on parlait du slip chauffant et des gens qui utilisaient un slip chauffant, moi, je voyais ça comme un truc complètement, ouais, complètement fou, bizarroïde, improbable, quoi. Et en fait, à force de rencontrer des gens qui utilisent ça, qui sont des gens, ils se trouvent en plus très souvent bienveillants, avec une certaine douceur, à la fin ça te paraît complètement commun, donc t'as pas du tout la même vision à la fin. Et nous gageons que il va se passer à peu près le même phénomène avec l'ensemble de la société française quand elle va découvrir dans la presse, à la télé, etc., parmi ses proches, des gens qui se contraceptent avec des moyens finalement assez simples.
Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai fait ce podcast, c'est de faire parler, en fait, d'une manière générale, parce qu'il n'y a pas vraiment de meilleure façon de libérer la parole, comme on dit. J'arrive plus avec ce terme de libérer la parole, mais bref. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, en fait, plus on en parle, plus on donne aussi l'accès à l'information, quoi, finalement.
Ben, moi, je me suis mis à une méthode contraceptive.
Bravo. On le raconte dans le
livre. Mais la bonne illustration de ce que dit Stéphane, c'est que depuis, j'ai des potes qui s'y sont mis aussi. Peut-être parce que on en a parlé ensemble et qui se sont dit, bon bah voilà, je connais quelqu'un qui le fait, c'est faisable et du coup je peux le faire aussi. Et ça, c'est une espèce de bouche à oreille qui fait que des choses deviennent un peu plus larges et un peu plus généralisées.
Pour revenir un petit peu à ce fameux groupe des années 80, là, il y a notamment une asso, c'est ça, qui s'appelle
L'Art des Coms,
qui est une association de mecs qui se regroupent et ils ont, les mecs ont 40 piges d'avance sur la société actuelle, quoi, clairement. Ils sont en plein dans toutes les prises de tête de la paternité, la place du mec dans l'avortement. C'est un sujet que j'avais traité sur, j'ai tenté, dans mon podcast de faire, les mecs, envoyez-moi comment vous avez vécu l'avortement de votre copine. Le podcast, il est super écouté. J'ai reçu 5 témoignages.
Ouais.
C'est-à-dire que dalle, vraiment, rien du tout. Mais ça prouve aussi qu'il y a aussi un énorme tabou. Et à l'époque, les mecs avaient monté un fanzine, c'est ça?
Ils avaient monté, absolument. Il y a eu quelques numéros et puis surtout une petite structuration avec des groupes locaux, des relais. Ils avaient parlé à la presse un peu. On les voit dans des émissions avec Philippe Bouvard sur Antenne 2 dans les dossiers de l'écran. Donc quand même des bonnes grosses émissions. Et puis ils se sont mis en contact avec quelques médecins complices qui les ont accompagnés pour trouver des solutions. Mais ça part vraiment de pas grand chose. Hein. Ça part de mecs qui racontent qu'ils se prennent des tatanes par leurs copines féministes qui leur disent bougez-vous. Faites des choses, ce qui est à peu près exactement la même chose que les mecs qui se contraceptent aujourd'hui pour
généralement ça part de là.
Voilà, ça part de là et ils réfléchissent à tout ça et puis ils se font des groupes en non mixité, des groupes d'hommes pour parler et puis ils se mettent à essayer d'agir concrètement sur un sujet assez concret et encore peut-être plus concret à l'époque. Les difficultés de la pilule.
Et c'est à la base vraiment de tout ça, c'est des groupes de parole et c'est assez génial parce qu'on a pu récupérer des cassettes avec des heures de discussion et c'est vraiment pour ceux qui l'ont lu, qui ont lu la BD Pénis de table qui est sortie chez Stenkis il y a quelques années.
Cookie Calcaire, je vous mettrai un lien dans les notes si vous voulez.
Et c'est vraiment ça avant l'heure et c'est assez révolutionnaire dans l'esprit. Alors il y a des trucs qui sont très datés dans la façon de parler. On est clairement, même si on est des gens particulièrement progressistes, on a des façons de parler qui sont clairement pré-MeToo. Mais c'est fascinant de faire cette plongée dans ces groupes de parole. Groupe de parole, effectivement, en non-mixité, avec cette idée de allez-y, on laisse filer, on se dit tout, quoi.
Qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
On se dit que je vais pas dire que j'ai perdu 35 ans de ma vie, 34 ans de ma vie avant de découvrir ça, mais je me dis que vraiment il y a un chemin qui peut être parcouru et que ce genre de choses, de témoignages, il est vraiment utile pour tout mec de 2021 de se dire en fait c'est possible d'être aussi ouvert là-dessus, de parler de faiblesse, de parler de difficultés, je sais pas, voilà, et puis surtout de parler de sa sexualité de cette manière. Les mecs parlent tout le temps de cul.
Oui.
De sexualité.
Performance.
De performance. Mais sous l'angle de la performance, sous l'angle du concours quasiment. Et là, c'est vraiment un tout autre regard. Et je pense que c'est un regard qui sort les mecs de cette emprise, en fait, qu'ils ont sur eux-mêmes, que la masculinité la masculinité toxique a sur eux.
Ce qu'on appelle la masculinité
toxique. De les contraindre à faire les choses que d'une seule manière et à voir les choses que d'une seule manière. Ça, c'est vraiment ces cassettes et cette enquête, ça ouvre un champ de possible assez fort pour nous.
Et au cœur de la toxicité masculine, je pense qu'il y a l'idée du sachant, c'est-à-dire je sais les choses et j'ai pas besoin d'en discuter avec les autres, j'ai pas besoin de poser des questions aux autres. On le voit très bien quand on devient père. De facto, on est complètement à poil parce qu'on évolue dans une société où il n'y a pas ce truc qu'il y a entre les grands-mères et les mères, entre les mères et sa fille, etc. Un espèce de passage de relais. Nous, venant de ces sociétés traditionnelles, en fait, bah, ton père t'apprend que dalle. Ta mère va pas t'en parler à toi parce que t'es un mec et qu'elle pense que t'es pas la bonne personne pour gérer ça. Donc t'arrives complètement à poil, mais tu es le sachant, tu es celui qui doit savoir. Et donc tu ne montres surtout pas que tu ne sais pas, et puis tu vas pas t'acheter des bouquins pour essayer de comprendre. Et au niveau de la sexualité, c'est exactement la même chose, en fait. Moi j'appartiens à une génération qui a été biberonnée à des pornos absolument immondes et dégueulasses, et finalement bah, c'est le seul truc qui t'accompagne au début de ta vie sexuelle. Dans ces groupes de parole, il y avait justement le côté bon bah voilà, on met les choses à plat, et puis c'est vraiment des choses très très concrètes, enfin vraiment très intimes et très concrètes.
Oui, c'est limite technique, quoi.
Ah ouais, limite technique, et puis alors vraiment on se dit tout avec des mots extrêmement crus, parfois choquants d'ailleurs. Et donc ça c'était fascinant de se dire ces types ont 40 ans d'avance, et puis en même temps vertigineux parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour qu'on en soit encore là ou si loin, ou qu'on ait reculé, parce qu'il y a vraiment des moments où on se disait mais en fait on a reculé par rapport aux brèches que ces types ont ouvert.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oui, parce que c'est clair que quand on les voit parler de... Enfin, il y a des mecs qui passent, comme tu disais, au dossier de l'écran, etc., et qui portent une parole. Mais c'est ouf, en fait, de se dire que moi, j'ai pas l'impression d'avoir grand... Enfin, alors, j'ai grandi avec ça parce que j'ai 45 balais, donc j'ai dû voir ça, mais j'étais pas adulte. Et de se dire qu'aujourd'hui, bah, depuis ma vie adulte, entre 2000 et 2020, j'ai pas l'impression d'avoir vu ça trop à la télé, sauf vraiment dans les maternelles ou dans des émissions très spécifiques, mais en prime time, terminé, quoi.
Ouais, et dans les émissions qu'on a faites, on a fait une émission avec Lina qui retrouve une archive de 1973. Avec un mec en costard, bon chic, bon genre, qui dit avec une voix et un ton de 1973, mais moi j'aimerais que il y ait une contraception pour moi, ma femme prend des hormones, ça lui fait du mal, je vois pas pourquoi je n'aurais pas à gérer ça moi aussi, on fait des enfants à deux, et on se dit ok, cette histoire, ce témoignage a 50 ans, et en fait on n'a pas une ligne à retirer de cela, mais pourtant ça n'a pas bougé, ça a été vraiment des déclencheurs très forts sur notre envie de faire cette enquête et que ça bouge un petit peu, quoi.
Donc vous allez rencontrer plein de spécialistes, c'est ça, tout au long du bouquin, et sur différentes méthodes de contraception. Le fameux anneau, le fameux slip chauffant qui après se transforme en anneau, la vasectomie aussi, et puis tous les aspects plus hormonaux, c'est ça?
Bah, l'idée, elle est double. C'est à la fois d'essayer de répondre à la question pourquoi en 2021 on n'a toujours pas une méthode de contraception masculine facile, vérifiée, à disposition de tout le monde, à la pharmacie du coin, et puis de faire parler des gens contraceptés, quoi, juste d'avoir du témoignage brut, j'allais dire.
Ouais. Et donc on en a rencontré un certain nombre de ces mecs contraceptés où on leur a parlé sur par téléphone, quoi, parce que c'était aussi époque Covid, et ils nous racontent des choses extrêmement simples, comment leur copine galère, comment ils ont cherché sur internet, comment ils ont été contraints de contourner le pouvoir médical pour se lancer eux-mêmes dans quelque chose qui, quoi qu'on en dise, paraît un peu aventurier, quoi. Et on rencontre ces gens-là qui sont fascinants, et puis on rencontre, ouais, tout un tas de spécialistes. Alors il y a des militants dans ces spécialistes, il y a des chercheurs, il y a notamment une chercheuse néerlandaise, Nelly Hoedschorn, qui a écrit un bouquin assez fascinant sur l'échec de l'invention de la pilule pour les hommes. Puis il y a des politiques aussi, parce que on voulait confronter nos recherches et notre enquête à une réponse politique, et l'absent, c'est alors il y a des médecins aussi. Mais le grand absent, c'est le labo pharmaceutique, le ou les labos pharmaceutiques. Aucun n'a répondu à nos demandes de réponse.
En plus, on n'a pas forcément besoin d'eux. C'est ça le pire, c'est qu'on se rend compte aussi que.
Bah, on se doute bien de. On se doute bien de ce qui s'est passé, mais on aurait préféré quand même avoir quelqu'un qui ait connu tout ça de l'intérieur, qui aurait pu nous dire.
Est-ce qu'il y a même une histoire dans ces boîtes-là, si tu veux? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont là depuis 40 ans et qui sont capables d'expliquer ce qui s'est passé avec leur cul? Je sais même pas, quoi.
Ouais, c'est la question.
Il y avait quelques pistes, mais on n'a pas réussi à les aboutir de personnes, notamment à l'OMS, parce que l'OMS a quand même pas mal travaillé dessus, ou dans quelques labos de recherche qui ont suffisamment côtoyé le sujet de près pour pouvoir dire ce qui nous est remonté aux oreilles, c'est que il y a eu des recherches relativement avancées, mais qu'à un moment, les conseils d'administration de ces boîtes ont estimé qu'il fallait privilégier d'autres choses, d'autres champs de recherche, parce que celui-là n'était pas porteur de profit, était risqué aussi, parce que la recherche sur la contraception, voilà, il y a eu des risques, il y a eu des coûts humains du côté des femmes, et refaire ça du côté des hommes, bah ça reste risqué. Pour un marché qui était évalué à pas grand chose, et du coup.
Ce qui est aussi une réalité, non, cette histoire de marché qui n'existe pas, parce que cette fameuse association là dont vous parlez, elle finit par péricliter parce que, bah, ils n'arrivent pas à trouver des mecs qui viennent suffisamment en nombre, qui viennent pour. Les mecs ne s'intéressent pas au sujet, quoi, globalement, même à l'époque. Ah oui, surtout à l'époque d'ailleurs, je crois.
Oui, bah, puis il y a le sida qui tombe dessus, oui, hein, comme plus, un rideau de fer sur cette histoire. Donc. Tout s'arrête à ce moment-là, quoi. Le sida arrive, tout le monde passe à la cape. Enfin, tout le monde, je
en
sais
tout
pas,
cas, dans
mais
les couples,
en tout cas, ouais. ça met un gros frein à cette histoire.
Ouais. Ok. T'as l'air songeur.
Non, je pense à ça. Je me dis qu'en effet, ouais, il n'y a pas eu de marché, mais. Il y a une part de la volonté des mecs là-dessus, c'est-à-dire que les mecs ne se sont pas mobilisés. C'est quand même l'un des principaux constats qu'on dresse à la fin de l'enquête. Mais le cercle vicieux, il se fait avec plusieurs acteurs. Il se fait aussi avec notamment les pouvoirs publics qui n'ont pas cette réflexion de se dire on doit communiquer sur la contraception à destination des femmes et des hommes. C'est de tout temps, quand les pouvoirs publics ont parlé de contraception, ils ont parlé aux femmes. Le site officiel gouvernemental sur la contraception qui vient de changer et qui est désormais un peu plus inclusif, si je puis dire.
Ouais. Choisirmacontraception.fr,
ouais,
c'est ça.
Ouais, mais alors du coup, c'est plus ça. Maintenant, okay. Il y a un nouveau truc. J'ai vu ça il y a quelques jours.
D'accord.
Et en tout cas, choisirmacontraception.fr, l'ancien site, c'était vraiment un site qui s'adressait aux femmes. Et on va pas complètement le reprocher, puisque de fait, les femmes avaient le mérite d'assumer cette charge. Donc, c'est normal que on va pas non plus s'adresser à des mecs alors qu'ils font rien dans cette histoire. Mais voilà, il aurait fallu aussi une parole publique pour dire réveillez-vous, vous faites des enfants à deux a priori, donc c'est aussi à vous de gérer ça, et ça aurait peut-être aussi un peu changé les choses plus tôt. Voilà.
Il y a tout un feuilleton aussi où vous essayez d'avoir Marlène Schiappa en interview.
8 annulations, 8 reports de rendez-vous.
Parce que Marlène Schiappa dit un truc au tout début de son mandat,
ouais.
Où elle dit « je veux faire en sorte de mettre la contraception masculine au centre du débat sociétal ».
Ouais. Et puis elle n'en dit plus un seul mot, plus jamais. Donc on voulait lui demander pourquoi. Et elle a fini par nous recevoir, donc c'est chouette qu'elle nous ait reçus et on la remercie. Et puis elle nous a permis de comprendre pourquoi finalement elle n'en avait pas parlé. Elle, ce qu'elle nous dit, c'est en quelques mots, c'est que sa priorité en étant secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, c'est de lutter contre les féminicides, contre les femmes qui meurent sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon, le harcèlement de rue. Et que tant qu'on se fait harceler dans la rue ou qu'on prend des coups, évidemment, on peut pas parler de contraception, etc.
Mais elle dit aussi que c'est quand même la faute de tous les autres. Dans ce qu'elle nous dit, c'est j'ai voulu en faire plus sur le sujet, mais la ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn, ne voulait pas. Et puis, de toute façon, pour que je me lance là-dedans, il faut que je sois déjà appuyé par des mecs qui feraient une tribune dans le JDD, et puis il faut un mouvement de la société civile. Et elle a ce truc de dire, en fait, ce n'est pas à moi d'enclencher le mouvement. Alors même que ce qu'on lui dit lorsqu'on l'interroge, c'est vous êtes considérée comme détentrice d'un ministère de la parole. Ça vous plaît pas forcément beaucoup, mais ça a aussi plein d'avantages d'avoir ce ministère de la parole. Vous pouvez poser des mots et changer des choses par les mots que vous prononcez. Et ces mots-là, vous ne les avez eus qu'une seule fois dans votre interview à elle, mais vous les avez pas eus d'autres fois. Et ça aurait aussi contribué à changer les choses en la matière.
Bon, et alors, votre chemin perso, à tous les deux, racontez-moi.
Bon, on commence par qui ?
Comme tu veux. Stéphane,
moi, mon chemin, il est plus court que celui de Guillaume, qui a fini par se contracepter. Voilà, après, le projet de la BD, il n'est pas militant. Enfin, il est militant en partie, mais l'objet n'est pas de dire à tous les mecs.
En tout cas.
Il est politique. Si... Non, mais il est militant, mais le projet n'est pas de dire à tous les hommes de se contracepter. Je pense que l'idée, c'est de dire, voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point de l'histoire de l'humanité, c'est les femmes qui ont tout géré. Ça a beaucoup arrangé les hommes. Tout a été organisé pour que ce soit les femmes. Avec tout ce que ça implique, d'effets secondaires, de rendez-vous à prendre chez le gynéco, de pilules à prendre tous les jours, etc., de stériler, qu'on vous prescrit, que parfois vous supportez pas, avec du cuivre dedans, enfin un certain nombre de trucs assez dingues. Maintenant, on va peut-être essayer de rentrer dans une nouvelle phase où les hommes s'intéressent, où ça fait la contraception dans l'union un échange dans le couple, et où on envisage quel peut être le moyen de contraception qui a le plus de sens pour ce couple donné, en fonction de comment quel âge on a, quelle est notre histoire, et comment la femme ou l'homme supporte ces moyens. Donc voilà, c'est dans le cadre de ce projet.
Moi, ça... On attend toujours la réponse de Stéphane sur son propre parcours perso.
Voilà, donc moi je ne suis pas contracepté, j'ai pas le même âge que Guillaume, j'en suis pas exactement au même point de ma vie de couple. J'ai pas une hyper envie de parler de ma vie privée, mais par contre ma meuf au cours de la BD a arrêté de prendre la pilule. Et donc aujourd'hui on fait autrement, soit avec un préservatif, soit la méthode du retrait. Mais donc elle prend plus d'hormones, comme pas mal d'ailleurs de femmes tout court.
Je tiens à dire que la méthode du retrait n'est pas une méthode de contraception. Je préfère le dire pour tous les gens, pour tous les jeunes qui nous écoutent.
Ah bon, c'est accès,
c'est,
ça
c'est, alors c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est considéré comme une méthode de contraception, sauf qu'elle est reconnue comme étant avec beaucoup d'échecs, quoi.
C'est ça.
Mais elle est listée dans la liste des méthodes de contraception.
Alors, officielle, ouais, mais ouais. Effectivement, c'est 50%.
Bah,
de...
c'est.
Après, il y a peut-être.
Il y a toute une histoire, parce que chez Mademoiselle, on avait fait une vidéo comme ça, et en gros, elle avait dit, alors faites gaffe, parce que ça marche pas, parce qu'une de nous deux. Vient de la méthode du retrait.
Disons que je pense que c'est difficile de la recommander parce que elle est vraiment.
C'est pour ça.
Statistiquement, il y a énormément d'échecs.
Alors peut-être qu'elle est mieux maîtrisée avec le temps dans le couple et le temps dans ton expérience de vie.
Si t'as envie d'un petit dernier, quoi.
Je vais envoyer un WhatsApp à ma meuf pour lui dire que.
Mais d'ailleurs, vous prenez et toi donc Guillaume, t'as adopté l'anneau, c'est ça,
ouais.
L'anneau contraceptif.
C'est le bon terme. Ouais.
Et vous terminez la BD par vous prendre le chou en fait. Ça, c'est vrai.
Non, mais parce qu'il
fallait une fin.
Ouais, et on se tire la bourre quand même. On se chamaille beaucoup au début de notre entretien. Stéphane a laissé entendre que j'étais un dictateur. Non, mais on s'est frité, ouais, pendant la BD, mais pas méchamment, mais parce voilà, à des moments, un tel est persuadé que le mot qu'il veut mettre à tel endroit de la BD est beaucoup plus malin que celui choisi par l'autre.
Okay.
Donc voilà, puis quand on bosse pendant 3 ans sur un projet qui en plus implique quelque chose de complètement nouveau pour nous deux, à savoir une mise en BD qui nous paraissait être l'affaire d'un mois et qui en fait a duré un an et demi parce que c'est un vrai boulot de dingue, et bah ça, voilà, ça fait des choses comme ça.
Non, ce qui est horrible, il faut le dire, sur la fin de la BD, donc il y a une petite pique, une petite blague sur le mot woke, où je lui dis que c'est Mr. Woke.
Ah oui.
Et machin, et on l'a fait, je sais pas quand, il y a un an.
En juin, je pense. Ouais.
Et depuis, c'est devenu.
Ouais, même avant.
Limite une insulte.
Ouais. Et depuis, c'est devenu une insulte. Alors, c'est utilisé dans la BD un peu comme une insulte, mais très gentille. Mais parce qu'à l'époque, ça l'était pas du tout. C'était quelque chose de très positif.
Pour expliquer d'où ça vient des US, où c'est en gros un terme pour te dire que t'es un peu éveillé.
Oui, et que tu fais attention aux gens, voilà, qui sont victimes de discrimination, qui sont oppressés, et que. C'est pas parce que toi, t'es pas concerné directement que tu fais pas attention à ceux qui te racontent ces oppressions.
France, on a décidé d'en faire une insulte. Enfin, en tout cas,
le terme a été politisé ces derniers mois.
Jean-Michel Blanquer a décidé d'en faire une insulte et ça marche pas mal. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre, mais mais voilà, en tout cas, il faut replacer la chute de la BD dans le contexte de l'époque, faire un travail d'historien. Et à l'époque, être woke, c'était une qualité. Aujourd'hui, par un truchement qui me paraît complètement dingo, c'est devenu quasiment une insulte pour une partie de la France, qui est sans doute pas celle qui nous intéresse le plus, mais voilà. Nous ne sommes pas des blanquéristes. Et ce n'est pas un clin d'œil à Jean-Mich.
Et toi, Guillaume, alors donc ?
Bah donc moi, voilà, le départ de la BD et de cette histoire, c'était les questions que je me posais dans mon couple. Qu'est-ce qui allait se passer ? Et donc, pendant deux ans, il y avait l'éléphant dans ma pièce, dans mon appartement à moi, qui était « tu fais une enquête sur la contraception, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Et donc, pendant deux ans, je me suis un peu posé des questions et j'avais des réticences, j'avais de l'appréhension. Je me disais « mais c'est très sympa qu'ils le fassent pour eux, ces mecs, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ?»
Elle te venait d'où, ces réticences ?
Bah de voilà, de me dire je vais me mettre je vais porter un slip chauffant ou je vais me faire une piqûre d'hormones, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça, il y avait une part de choses là-dedans qui me paraît pas complètement absurde, à savoir on ne connaît pas encore suffisamment et précisément l'étendue des risques que cela peut engendrer. La différence avec les nanas, c'est qu'on connaît l'étendue des risques que cela peut engendrer.
Chez
les mecs. Voilà, ça veut pas dire que une fois qu'on aura toutes les études, il y aura rien, parce qu'il y aura possiblement des choses, mais il y avait un peu de doute là-dessus. Mais après, c'était, il y avait aussi un truc lié à l'éducation de mecs, le fait qu'on n'est pas habitué à avoir une médicalisation de son corps, un regard médical sur soi, et que voilà, ça a donc mis du temps à accoucher, et finalement le fait que je rencontre le mec Maxime Labry qui a développé l'anneau, que on parle avec pas mal de mecs qui utilisent une contraception, c'est devenu quelque chose qui est rentré dans le champ des possibles, et donc je m'y suis mis il y a un an. Voilà, donc je porte un anneau depuis un an, et depuis un an
là tu nous parles et tu portes un anneau,
et voilà, et ma voix serait à peu près la même si je ne l'avais pas, je crois. Non, et ce qui est dingue surtout, c'est que je me dis depuis un an que c'est quand même extrêmement simple, cette histoire, et que voilà, jusqu'à preuve du contraire, enfin ça marche déjà, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est réversible, ça a été quand même pas mal testé sur plus de 1500 cycles potentiels de fertilité, il y a eu des études scientifiques pour dire que c'était réversible, et puis c'est vraiment extrêmement simple, quoi. Le seul effet secondaire répertorié à la méthode que j'utilise, c'est des démangeaisons au début.
Parce qu'il faut s'habituer, quoi.
Faut s'habituer, voilà, ça passe vite, faut apprendre à bien le mettre, mais à la fin, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est simple, en fait.
Et pour être très clair avec tous les mecs qui nous écoutent, tu n'as pas perdu de virilité.
Bah, je crois pas, non, mais non. Et c'est marrant parce que sur une autre méthode de contraception, la méthode hormonale, il y a quand même l'un des mecs à qui on parle qui l'utilise, qui nous dit, mais j'ai rompu avec ma nana, peut-être parce que elle trouvait que ça accentuait des trucs de virilité, j'avais plus envie de faire l'amour, j'étais plus agressif, etc. Ce qui est quand même un peu à l'inverse de l'idée de ce que pourrait être un mec contracepté dans l'imaginaire commun. Non, ça a rien changé, en fait. C'est vraiment toutes choses égales. Toutes les choses sont égales par ailleurs. Enfin, je crois. Stéphane me connaît bien.
Après, je connais pas ta vie intime.
Mais non, mais enfin voilà. Bah peut-être qu'il faudrait faire témoigner ma compagne. Mais non, mais blague à part.
Non, mais toi, moi, je crois que l'un des freins, c'est ce truc de, ok, en fait, je vais plus éjaculer, parce qu'en fait, il y a une méconnaissance folle où je vais bander moins fort, ou je vais moins bander, ou je vais plus bander du tout.
Non, alors moi, au cours de l'enquête, j'ai entendu le contraire, que ça permettait de bander plus fort, parce que quand c'était utilisé, quand tu le gardais pour faire du sexe, ça peut avoir un peu l'usage dans cock ring, voilà. Ouais.
Et après, tu découvres aussi que en fait, dans l'éjaculat, il y a environ 2 ou 3% de spermatozoïdes. Le reste, c'est du liquide séminal, c'est d'autres substances. Et du coup, en fait, ça change rien, quoi.
Ça change absolument rien. Le sperme continuera à être viril, voilà. Et être extrêmement dense. C'est vrai. Je crois que c'est des questions très claires auxquelles il faut répondre.
Ah oui, non, bien sûr.
Et qu'il faut venir mettre sur la table, en fait. Parce que pour moi, ça fait aussi partie de l'inconscient collectif, tu vois, oh mon Dieu, mais... Moi, j'ai une vasectomie depuis 3 ans, c'est des questions qu'on me pose, quoi. Alors, comment ça se passe? Non, t'inquiète, pas de problème.
C'est exactement ça. Ouais. Et il y a plein de mecs qui sont d'un côté de la barrière et très loin de cette barrière et qui se disent, mais oulala, danger, fertilité égale virilité. Et puis, une fois que la barrière est franchie, les mecs qui utilisent une contraception se disent, bah, en fait, c'est la même chose qu'avant, sauf que c'est beaucoup plus pratique pour ma compagne, c'est faisable et facile, et à la fin, si je veux faire un enfant, bah, j'arrête, et puis ma fertilité reviendra et sera possible, quoi.
Ce qui n'est pas le cas pour la vasectomie, hein, je le rappelle. Mais... Enfin, en tout cas, il ne faut pas compter dessus. Si
voilà, la vasectomie, mais la vasectomie, on peut compter
dessus. T'as fait faire congeler ton sperme ou pas?
Non. YOLO.
Ah, donc c'est fini, il n'y aura plus.
En revanche, un truc que j'ai regretté de ne pas avoir fait, c'est de ne pas avoir fait un don de spermatozoïdes. Parce que c'est un truc que j'ai découvert après, qu'on ne m'a pas proposé sur le moment, où j'aurais pu très bien filer un don de spermatozoïdes à l'Agence de la biomédecine, parce qu'aujourd'hui, ils en cherchent, en fait. Donc ça fait partie des trucs où on ne m'a pas du tout prévenu sur le moment, que j'ai découvert après coup, quoi.
Non, on t'a pas prévenu de quoi?
On m'a pas proposé, tu vois. Alors, on m'a proposé de le faire congeler, mais en fait, on m'a pas dit, bah, tu peux aussi l'utiliser pour en faire un don, quoi, tout simplement. J'aurais été avec grand plaisir dans cette fameuse petite. Tout à fait, quoi, tu vois. Bah,
le fameux endroit. Un laboratoire, ouais. Petite anecdote, mais qui est rigolote. Stéphane parlait tout à l'heure de son biberonnage à des films porno horribles. Quand on va dans un laboratoire, en tout cas dans celui où je vais, je lui rends hommage parce que c'est quand même bien pratique de pouvoir faire ça. Et quand on est parisien, c'est quand même plus simple que si on habite à la campagne. Mais donc, je vais dans un laboratoire pour faire un spermogramme, analyse du sperme pour savoir si on est fertile. Et dans ces cabines où on fait ça, il y a des télés, et au bout du troisième spermogramme que je viens faire, je sais pas, au bout de quelques mois, je me dis, sois pas con quand même, allume la télé. Et évidemment, sur la télé, au moment où tu viens faire un truc qui participe d'une démarche un peu égalitaire, tu as un porno dégueulasse où des filles se font humilier. Enfin,
ouais, voilà. Je suis assez d'accord.
C'est assez paradoxal, mais bref, c'est un détail.
C'est ça, la société est en mouvement. En tout cas, ça s'appelle les contraceptés. Pas les contracepteurs.
Mon carte pour titre. Il n'y aura pas de droit d'auteur.
C'est meilleur comme titre, avec les contracepteurs.
On peut le trouver en librairie, partout sur Internet.
Alors là, il y a une bonne rupture de stock en ce moment.
Ah, c'est vrai?
Ouais.
Okay.
Et puis il y a des problèmes de papier, de pénurie de papier post-Covid. C'est un peu la guerre du papier, mais il revient le 26 novembre.
Ouais, il est encore dispo dans certaines librairies, okay. Mais il est un peu plus difficile à trouver. Il se trouve quand même sur Internet pas trop difficilement, si on passe par des libraires indépendants notamment. Mais voilà, fin novembre, il sera là
bon
en masse.
Noël.
Ouais,
à filer à votre tonton là.
Pour animer le repas de Noël surtout. Ouais,
exactement.
C'est là vraiment, je pense que ça lance un repas sur des. Pour éviter de parler d'autres sujets qui fâchent. Un sujet intime, pourquoi t'as rien fait, papy? Et voilà.
Si t'as un tonton du printemps républicain que tu veux un peu agacer, c'est le cadeau idéal. Il faut peut-être lui en offrir 3. Quoi.
Merci les mecs, c'était cool.
Merci.
Ciao.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit « Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. » Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez « Histoire de succès » directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.